des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Cette semaine, des femmes dans la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième témoin, Maria Sabina de Vrim et l'insurrection de Varsovie de 1944.
Ravagée par les Stuka et les Dorniers de Göring, Varsovie allait durant 5 ans subir plus tragiquement qu'aucune autre ville d'Europe l'atroce martyre de l'occupation ennemie. En 1944, enfin, peu avant la libération de Paris, Varsovie, dans un dernier sursaut, prenait les armes et, devant l'approche des armées soviétiques, tentait de chasser elle-même l'Allemand.
Ce parallèle entre l'insurrection de Varsovie et la libération de Paris mérite d'être fait et refait. Dans un cas comme dans l'autre, les chefs de la résistance nationale voulaient prouver leur légitimité en prenant les devants et en précédant dans l'attaque des Allemands les armées alliées qui approchaient. Pour le gouvernement polonais en exil à Londres et les quelques 50 000 combattants de son arma Krajowa, embusqués dans la région, c'était même une question de vie ou de mort. Staline voulait en effet mettre la main sur la Pologne, et pour Roosevelt et même Churchill, l'entente avec Staline l'emportait sur le soutien à la Pologne. Il fallait qu'en un cri s'élève la voix de l'indépendance. Cependant, au bout de 4 jours de combats et de barricades, les occupants s'avèrent bientôt aussi nombreux que les insurgés. Ils sont infiniment mieux armés, leur comportement est d'une brutalité inouïe, tandis que l'armée rouge, parvenue de l'autre côté de la Vistule, pourtant ne bouge pas. En août 44, à Paris, 1600 morts en 63 jours. À Varsovie, quelques 200 000, dont peut-être 20 000 combattants.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et parmi ceux-ci, notre invitée, Maria Sabina de Vrim, à l'époque, Tarlovska. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée ensuite à Paris. Vous nous direz dans quelles circonstances. En 1946, un Paris qui ressemble d'une certaine manière à Varsovie, il fait froid, on a faim. Vous voyez partout des plaques commémoratives, des cérémonies relatives à la libération de Paris. Et vous, venue de Varsovie, vous vous dites « je suis jalouse ».
Oui, je vous ai dit ça comme ça, peut-être le terme est un peu impoli, disons. Mais bien sûr, parce que voyant que c'était au mois d'août la même chose qu'à Varsovie, et qu'au bout de ces quelques jours, Paris était libéré, pour moi, ça paraissait une chose absolument extraordinaire. Vous venez de dire qu'il y avait une ressemblance entre Varsovie et Paris. Non, il n'y avait pas de ressemblance, parce que Varsovie, encore en 1946, c'était complètement détruite.
La ville était à peu près rasée. L'occupation en Pologne avait été particulièrement difficile, plus difficile certainement qu'en France, parce que pour le Troisième Reich, la Pologne n'était même pas digne d'exister, et les Polonais n'étaient même pas dignes d'être des collaborateurs, c'était des serviteurs.
Ça peut-être c'est un peu exagéré dans le sens que les Allemands quand même ont essayé de créer un gouvernement. Il y avait le Frank qui était à Cracovie, et il paraît qu'il a essayé à plusieurs reprises convaincre surtout les gens de l'aristocratie polonaise, peut-être pas seulement d'aristocratie, d'accepter de collaborer, de créer une espèce de gouvernement. Et les Polonais n'ont pas voulu. D'abord, ils n'ont pas voulu parce que dès l'arrivée des Allemands, leur attitude était tellement terrible à l'égard des Polonais qu'on trouvait que c'était impensable. Et de l'autre côté, parce que la résistance, qui est née presque immédiatement après la défaite, parce qu'il y avait déjà les gens qui enterraient les armes dans les jardins en disant « ça nous servira plus tard ». Donc la résistance le prévenait, si jamais il acceptait de collaborer, il serait exécuté.
Alors, la résistance s'organise depuis un gouvernement en exil à Londres, avec une armée de l'intérieur, Armia Krajowa, avec tout un système de réseau d'enseignement clandestin. Vous-même, vous avez fait vos études dans ce réseau clandestin.
Oui, mais ça n'avait rien. Il y avait d'un côté le côté militaire, et d'un autre côté, il y avait justement l'enseignement. Parce que les Allemands, une fois rentrés en Pologne, ils ont dit qu'ils ont besoin des Polonais en tant qu'ouvriers et paysans. Donc les écoles, on a fermé toutes les écoles.
La presse clandestine aussi joue un grand rôle, à tel point que les Français libres de la BBC, début 1943, sont intéressés par les exploits ingénieux des résistants polonais. Voici un sketch enregistré à Londres et censé se dérouler dans un parc de Varsovie.
Nouvelle déclaration de guerre pour 20 sous seulement.
Donne-moi un, vite.
Voilà, monsieur, avec mes respects, le nouveau courrier de Varsovie.
Vous lisez les journaux allemands, à ce que je vois.
Oh, pas régulièrement. Mais bon Dieu, monsieur Théophile, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la blague.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ce journal-là n'est pas du tout l'habituel nouveau courrier des Boches.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il y a des nouvelles extraordinaires?
Allons, parlez. Nous sommes tous polonais ici.
Mais oui, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Lisez, mais lisez.
Ah, mais un moment, je vous prie. Nous devons nous être prudents. Monsieur Théophile, appelez donc le joueur d'orgue de Barbarie qui est là-bas et dites-lui de venir jouer. Si un Boche s'amène, nous aurons l'air d'écouter la musique.
Bonne idée. Hé, une polka, monsieur le musicien. Et du mouvement, s'il vous plaît, hein?
Comme vous pouvez tous le constater, ce journal ressemble parfaitement au nouveau courrier de Varsovie. Mais en réalité, c'est une édition d'un journal de la presse clandestine. Écoutez, c'est à propos de nos soldats polonais qui se trouvent en Angleterre.
Un bon tour identique a été joué aux Allemands par l'organisation secrète de Varsovie le 3 mai dernier. C'était la journée nationale polonaise. À midi, une voix inconnue se fit entendre soudain, sortant du réseau des haut-parleurs qui avait été installé dans toutes les rues. La transmission allemande en langue polonaise fut brusquement interrompue et pendant un quart d'heure, la voix inconnue donna des informations exactes et véritables sur les forces armées polonaises, le gouvernement polonais de Londres et la situation réelle de la guerre. Une multitude de Varsoviens écoutait enthousiasmés. Les autorités allemandes furent tellement surprises qu'il leur fallut un quart d'heure avant de pouvoir couper le courant des haut-parleurs.
Radio Londres, les Français parlent aux Français. Mais vous-même, Maria Sabina Devrim, à l'époque, Tarlovska, vous êtes très ingénieuse, parce que vous entrez dans cette résistance en 1942, vous avez un rôle d'agent de liaison, très souvent. À l'époque, vous portez des nattes?
Oui, j'avais de très grosses nattes blondes. Et dans les nattes, on mettait des petits papiers très fins sur lesquels il y avait les ordres qui étaient écrits, qu'on les mettait dans les nattes et c'était complètement invisible. Donc je l'ai fait énormément de fois et jamais il n'y avait eu de problème.
Vous étiez divisé sur un certain nombre de points dans la résistance, je ne sais pas moi, sur l'attitude du pape. On sait combien les prêtres, les religieuses ont eu un rôle dans la résistance en Pologne. Le pape Pie XII vous paraissait peut-être un peu silencieux.
Ça, c'était assez intéressant parce qu'il y avait les gens qu'on appelait papistes et antipapistes. Alors, les antipapistes, bien sûr, trouvaient que l'attitude du pape était beaucoup trop tiède par rapport aux nazis. Et les papistes soulignaient quand même qu'il fallait, pour le pape, l'essentiel était sauver l'Église.
Jan Karski, dès la fin 1942, rend compte à Londres et à Washington de ce qu'il a vu en pénétrant clandestinement, au nom de la résistance polonaise, dans le ghetto de Varsovie. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, depuis Varsovie, de l'insurrection du ghetto au printemps 43?
Oui, alors, au début, quand le ghetto était créé, il y avait les tramways qui passaient à travers les ghettos. Les tramways étaient fermés, on ne pouvait pas descendre. Donc, au début, ce qu'on voyait, ça paraissait les gens inquiets, mal habillés, dans un état très misérable. Mais ensuite, ces tramways n'existaient plus, et les renseignements qu'on avait, uniquement par les Juifs qui se sont sauvés et qui étaient aidés par les Polonais pour pouvoir continuer à vivre. Malheureusement, vous savez qu'il y avait des cas détestables, des gens qui les dénonçaient. Et on avait aussi des renseignements des gens qui collaboraient avec les résistants du ghetto. Parce que pour avoir les armes, c'est les Polonais de la résistance qui leur fournissaient les armes.
Alors, on a dit que la résistance intérieure ne disposait pas au printemps 43 de suffisamment d'armes pour équiper le ghetto. Et d'ailleurs, au moment du déclenchement de l'insurrection le 1er août, on en parlera avec vous, Maria Sabina de Vrim, il n'y avait pas beaucoup d'armes encore du côté des Polonais. Le déclenchement de l'insurrection, c'est le 1er août. Où êtes-vous? Dans quel cadre travaillez-vous? Je vous parle comme un ancien combattant, parce que vous l'êtes, hein, titulaire de la Croix de guerre. Alors, comment s'appelle votre unité? Où est-elle?
Moi, depuis 1942, j'étais dans la résistance. J'étais assermentée par un monsieur qui s'appelait Kazimierz Kamler. Et il y avait l'usine Kamler qui était connue parce que pendant un certain temps, Borko Morozki avait là-bas son quartier général.
Donc c'est le général de l'AK délégué depuis Londres.
C'est ça. Je travaillais uniquement comme agent de liaison.
Mais alors, en août, il y a beaucoup de femmes dans l'insurrection?
Ah oui.
C'est... De femmes combattantes, j'entends.
Oui, on prétend que d'une façon générale, dans la résistance, il y avait un tiers des femmes.
Et quelle était l'attitude de Maria Sabina de Vrim de la population ces tout premiers jours de l'insurrection?
Alors, les premiers jours de l'insurrection, la population était, comme nous tous, extraordinairement enthousiaste. On espérait vraiment que l'insurrection finira rapidement, que vraiment on va libérer la ville, qu'on arrivera à chasser les Allemands. Mais malheureusement, l'insurrection a duré plus de 2 mois. Je crois qu'il est absolument nécessaire de souligner le courage et abnégation de la population de Varsovie. Ils ont souffert énormément. Et la souffrance des femmes avec des petits-enfants, où à un moment donné, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien à leur donner. Je crois qu'on ne souligne pas suffisamment le courage de la population. À la fin, il y avait des moments, paraît-il, où les gens disaient « ça suffit, capitulons, nous ne pouvons plus ». Mais d'une façon générale, l'attitude était extraordinaire. Je voudrais le souligner.
Vous vous inscrivez donc dans une certaine tradition du rôle de Varsovie dans la défense de l'indépendance, parce qu'il y a eu de grands moments historiques dont vous souvenez nécessairement dans ces premiers jours d'août 44, où certains quartiers de la ville se couvrent très vite de barricades. Le témoignage de Janus, et puis je pense que vous allez reconnaître la chanson qui va suivre.
On s'est fait une petite soirée à laquelle on a invité des collègues, des autres unités, comme des ambulanciers, des femmes, agents de liaison. Il y avait un jeune homme, Ziutek. Il a composé un chant connu sous le nom de Palachik Mikla Zitnia Vola. C'est ce soir-là que ce chant si populaire a été composé. Tous les Polonais le connaissent et le chantent encore aujourd'hui.
Палацик міхла житня вола, бронів їх хлопці от парасола, починати гриси майом вісі, то варшав'які, хай не хлопаки су.
Чувай для рабки витяжний сук, пресуй води дух, працюй от забув. Чувай для рабки витяжний сук, пресуй води дух, як стан.
Ранені санітарюшки, парове панни, а коли чим кулька трафіяка, попросиш панне, та чи бузяка, гей.
Чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, працюй за дух. Чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, як стан.
Інтендентура, ружне мужики, готує зупи, чарлом каве, і тим способом бачу за справи. Ей,
чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, працюй за дух. Чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, як стан.
Твоє стморове, по першій лінії надставя голове, а найморовший з пшеложоних, то є наш м'єчо кукокононих, гей.
Чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, працюй за дух. Чувай, яра, і витяжай сум, пресуй води дух, як стан.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre témoin de ce vendredi, Maria Sabina de Vrim, est une combattante de l'insurrection de Varsovie. Elle connaît ce chant d'autre de Ziutek que vous reprenez. Vous allez peut-être pouvoir nous aider à le traduire dans les cérémonies qui ont lieu maintenant régulièrement le 1er août en Pologne.
En ce qui concerne cette chanson, elle est charmante, mais je pense qu'elle était faite au début de l'insurrection. Après, on était moins joyeux. Et c'est charmant, c'est tout simplement, il raconte qu'ils combattent et ils espèrent d'être blessés parce qu'il y aura une jeune infirmière, c'est pas le terme, je trouve pas le terme juste. Peut-être il recevra un baiser.
Alors, les premiers jours, on a quand même le sentiment que des points importants sont marqués.
Oui, bien sûr. Dans la vieille ville, où on a réussi à occuper certaines places qui étaient occupées par les Allemands et qui a provoqué que, par exemple, les Allemands qui étaient dans les casernes, où ils ne sortaient plus, parce qu'ils avaient peur. Donc, la ville, une grande partie de la ville nous appartenait.
Oui, mais vous vous êtes aperçu assez rapidement, au bout de 4-5 jours, quand les Allemands se sont ressaisis, que les unités allemandes qui avaient peur ou qui avaient quitté Varsovie étaient relayées par d'autres absolument terribles. La brigade d'Hillerwanger, la division Kaminski, il y a aussi des troupes de Vlasov. Ce sont des unités très spéciales.
Oui, mais c'est-à-dire, au début, les Allemands, d'abord, les Allemands ne sortaient jamais la nuit. Et nous, parfois, on pouvait agir la nuit parce que les Allemands ne connaissaient pas suffisamment la ville et ils n'agissaient pas. Et n'oubliez pas qu'avant que l'insurrection a commencé, nous avons vu les troupes allemandes qui quittaient Varsovie, qui allaient vers l'ouest. Et ils avaient l'air vraiment assez misérables. Ça nous donnait l'espoir, l'idée que s'ils sont dans un tel état, c'est bien. Et il y avait le premier... La première division qui est revenue au bout de quelques jours, c'était la division Hermann Göring, qui était connue, qui est revenue à Varsovie. Ce que vous parlez, c'était plutôt les Ukrainiens qui combattaient ensemble avec les Allemands. Et leur comportement était tellement épouvantable quand ils prenaient un quartier de Varsovie que les habitants espéraient le retour de SS allemande.
Effet de contraste qu'on entend aussi dans le témoignage que voici de Witold. D'abord la liesse et ensuite l'inquiétude, l'angoisse et la question des responsabilités.
C'était une joie incroyable, spécialement de la part des jeunes. Avec les copains, nous étions euphoriques, nous nous sautions au cou, nous dansions, nous poussions des cris. Je me souviens d'avoir habillé mon quartier de drapeaux blancs et rouges. On peignait à chaque coin de rue le sigle de l'encre de la Pologne combattante. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Les combats se déroulaient dans chaque rue, d'où l'atrocité et le nombre de victimes. Je n'avais pas d'armes, mais c'était le cas de 60% des soldats de l'AK. La base de l'armement consistait en une bouteille remplie d'essence. Même pour les soldats entraînés et les groupes de combat opérationnels. C'est pourquoi cette bataille fut si terrible, avec ses 200 000 insurgés tués.
Insurgés et civils.
Pas insurgés, surtout les habitants.
Insurgés et habitants.
Oui.
Alors, vient la question des responsabilités. Vous avez tendance à dire, vous maintenant, Maria Sabina de Vrim, que les armements n'étaient pas suffisants, que l'insurrection a été déclenchée trop tôt, sans biscuit, mais comment pouvait faire autrement l'AK, puisqu'il y avait la menace de Staline, de l'armée rouge et de la perte de l'indépendance de la Pologne qui était là.
Vous parlez de la perte d'indépendance de la Pologne. Je ne pense pas que l'insurrection de Varsovie, ça concernait l'indépendance de la Pologne. Comme je vous ai dit, je pense que les Polonais ont prouvé sur tous les fronts, à Monte Cassino, à Tobruk et ailleurs, à quel point ils considèrent qu'ils se battent pour la Pologne, contre les nazis, mais pour la Pologne. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui prétendent que c'était pour montrer que la Pologne peut être indépendante. C'était plutôt, comme on savait les dangers soviétiques, c'était plutôt pour provoquer l'arrivée de membres de l'armée, membres du gouvernement polonais de Londres, Mikołajczyk, qu'on va créer un gouvernement peut-être composé des uns et des autres, parce qu'on savait déjà qu'il y avait le gouvernement à Lublin.
Ça, c'était un comité communiste créé sous la protection de Staline, un contre-gouvernement.
C'était un gouvernement avec Vanda Vasilevska, etc. Et il se considérait comme le futur gouvernement. Et on voulait absolument que Mikołajczyk et les autres membres du gouvernement de Londres puissent participer.
Alors, le gouvernement de Londres était en principe soutenu par Londres, beaucoup moins par Washington. Enfin, en même temps, il y avait la nécessité de l'entente avec Staline pour Roosevelt et Churchill. Les Anglais pouvaient-ils parachuter ? Ils devaient faire partir leurs avions de Bari et de Brindisi en Italie.
On n'attendait pas le parachutage des gens. On attendait les armes. C'est ça qui manquait. Parce qu'il y avait suffisamment de gens à Varsovie. D'abord, ceux qui étaient dans la résistance et ceux qui venaient demander « Prenez-nous, que pouvons-nous faire ?» C'était surtout le problème d'armement. Et c'est pour ça qu'on peut en vouloir à Borkomorowski,
le chef de l'armée Krajowa,
d'avoir déclenché l'insurrection en sachant à quel point on manque d'armes. On ne pouvait pas se battre contre les Allemands qui étaient très bien armés, nous qui on n'avait rien. Et quand on a dit ça au général Monter, comment faire, on n'a pas d'armes, il a dit, vous n'avez que les prendre sur les Allemands. Mais de quelle façon?
Le général Monter qui appartenait aussi à l'AKA. Staline n'autorisait pas, sauf dans les tout derniers jours, l'usage des aéroports à l'arrière du front de l'Est pour ravitailler en armes les insurgés de Varsovie. Et l'armée rouge n'a pas bougé. L'agence TASS a fini par dire, le 13 août, l'agence officielle de Moscou, que c'était les émigrés polonais de Londres qui portaient la responsabilité de ce qui se passait à Varsovie, puisqu'ils n'avaient pas prévenu suffisamment à l'avance le Kremlin et qu'ils n'avaient pas prévu une action coordonnée.
Je pense que c'est une des mensonges du gouvernement soviétique. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'ils disent aujourd'hui, ce que dit Poutine à propos d'Ukraine. Ils ont l'habitude de mentir. On peut très bien comprendre l'attitude de Staline, mais nous ne pouvons pas l'accepter, on peut la comprendre. Il savait très bien que l'ensemble de la population n'est pas communiste du tout, qu'on est contre l'Union soviétique, donc il considérait qu'il n'avait pas à nous aider.
Les semaines, quand même, passent et l'insurrection dure 63 jours dans une ville de plus en plus morcelée où les contacts entre les quartiers isolés sont de plus en plus difficiles, par exemple par les égouts. Voici le témoignage, nous sommes vers le 15 septembre, de Witold, le même tout à l'heure, qui introduisait la chanson joyeuse de Ziutek.
Soudainement, je sens comme un coup de fouet au visage. C'était un projectile qui m'a soulevé dans l'air. Je l'ai reçu ici, au niveau du menton, et il est sorti de l'autre côté de ma mâchoire. J'ai eu la sensation que j'étais en train de quitter mon corps.
Je n'avais pas de médecin pour m'aider. Le médecin venait tous les 2-3 jours. Mais dans le cas de Levinsky, la blessure était très grave. Il y avait aussi Nina, la femme de Jérémy, qui avait la même blessure. Elle ne pouvait pas parler. Il fallait qu'elle se soutienne la mâchoire avec sa main, car elle avait les articulations de la mâchoire bousillées des deux côtés.
Les Allemands tiraient sans cesse et dans tous les sens. On était complètement encerclés. C'était terrifiant. Il n'y a eu donc que quelques groupes qui sont parvenus à sortir par les égouts.
Les égouts de déversement sont toujours en pente vers le fleuve. Et si la Vistule est haute, les égouts seront inondés. Et on ne pourra plus passer.
Un bon nageur pourrait y parvenir.
Moi, je suis bon nageur.
Et les autres?
Daniel a qu'à passer le premier. En nageant, il aura fixé une corde à l'extérieur. Et puis nous, après, on n'aura plus qu'à suivre cette corde sous l'eau.
Même sans savoir nager?
Même, bien sûr.
Avant cet extrait du film « 7 dans un bunker », on entendait Ursula et Maria dans le documentaire « Les combattants de l'ombre ». Vous avez tenu, vous, le même rôle qu'Ursula et Maria. Vous étiez redevenue infirmière. Une infirmière n'était pas là pour apporter le baiser, comme dans la chanson de tout à l'heure.
Non, malheureusement pas. Le travail des femmes était vraiment un travail extrêmement courageux et dangereux parce qu'il fallait aller les chercher, les blesser, les Allemands continuaient à tirer. Il y avait beaucoup de jeunes infirmières qui sont morts en essayant de sauver le blessé qui tombait sur le terrain entre l'endroit où nous attaquions et l'endroit qu'on voulait occuper.
Alors après que beaucoup de combattants ont été tués brutalement, sans jugement bien sûr, par les Allemands comme les civils, Borkomorowski obtient cependant, à la toute fin de l'insurrection, un statut de prisonnier de guerre pour ceux qui, comme lui, vont se rendre.
On a capitulé. Alors c'était quelques jours avant l'attitude de Borkomorowski. Parce que tenir ces quartiers, c'était complètement impossible. Les Allemands avançaient et tuaient tout le monde. C'est-à-dire d'abord tuaient tous les blessés. Il les brûlait, il les tuait, et la population était obligée de quitter la ville, c'est-à-dire on partait avec un petit sac ou sans rien, et les gens allaient vers l'ouest de la ville où il y avait un camp, et là on séparait ceux qui étaient blessés, les vieux qu'on laissait partir, rejoindre la famille à l'intérieur en Pologne, et ceux qui étaient dirigés vers les petits hôpitaux. Moi, j'étais blessée le 15 septembre dans une attaque allemande qui était vraiment féroce parce que c'était l'armée lourde. Et c'était les tanks, les chars qui avançaient et derrière, il y avait les tireurs d'élite. Alors les gens qui essayaient de se sauver étaient abattus par les tireurs d'élite. C'était absolument terrible. Il y avait entre autres... C'était très émouvant. Il y avait un garçon qui s'appelait Paviak. Il était dans la résistance. Ils étaient pris quelques jours avant l'insurrection. Il était en prison où il devait être exécuté. Et l'insurrection a éclaté. Paviak était libéré et il s'est sauvé. Il a fini par venir chez nous. Et on disait, bon, lui qui a failli être exécuté, il ne risque plus rien. Et il est mort. C'était une maison. Il était au troisième étage. Moi, j'étais au premier. Il a trouvé un pot de confiture. Et il est descendu pour me l'apporter. Parce que c'était très important. Quand on était blessé, on mangeait très mal. Alors, le fait d'avoir du sucre, les sangs s'épaississaient. Et c'était un cadeau extraordinaire d'avoir du sucre en cas de blessure. Et c'est comme ça que lui était mort.
Les plus sensibles, les plus généreux, les plus courageux, souvent, ce sont ceux qui sont morts, dites-vous, ce sont ceux qui manquent. Et il vous arrive à vous de dire, vous savez, le courage, je n'en ai pas eu, je n'avais pas d'autre choix, de toute façon, que d'avoir un comportement courageux.
Je crois que j'ai écrit ça quelque part, que je n'ai aucun respect pour le courage pendant la bataille, pendant la guerre. Parce que l'atmosphère est telle que ne pas être courageux, c'est impensable. Vous ne pouvez pas vous cacher devant quelqu'un parce que vous allez être tellement méprisé par les autres que c'est comme un suicide. Donc, c'est un courage que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de respect. Oui, j'étais courageuse, bien sûr, parce que je suis allée chercher les blessés que quelqu'un d'autre n'avait pas envie de chercher parce qu'il avait un peu peur, etc. Mais je considérais ça comme une chose tout à fait naturelle. Il y avait un monsieur qui disait qu'en 1939, la croix Virtuti Militari, parce que son cheval, il n'arrivait pas à retenir le cheval. Le cheval a avancé, il n'arrivait pas à le retenir. Alors il disait qu'il avait honte d'avoir Virtuti Militari. Donc vous voyez mon attitude à l'égard de...
Je rappelle quand même que vous avez la croix de guerre, oui, Maria c'est... Sabina de Vrim, et qu'après une odyssée de plusieurs mois, à l'issue de l'insurrection de Varsovie, votre blessure vous a permis d'obtenir un visa pour la France en 1946, où vous êtes resté épousant le peintre de Vrim, défendant son œuvre, tenant une galerie et revenant maintenant régulièrement en Pologne. Une intervention signée de votre main a eu lieu récemment dans un colloque dont on trouvera les références sur notre site et qui était tenu par la Bibliothèque polonaise de Paris. L'émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco, à la technique Henri Bérec et la réalisation Jacques Sigal.